Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 mai 2014. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Démission du ministre malien de la Défense, Soumaïlou Boubey Maïga.
45 soldats et policiers tués dans une nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.
Washington demande à tous les ressortissants américains de quitter immédiatement la Libye.
Le Conseil de sécurité de l'ONU change le mandat de ses casques bleus au Soudan du Sud.
Le président Obama veut garder 9 800 militaires américains en Afghanistan après la fin de leur mission de combat.
Le secrétaire général de l'ONU se dit alarmé par la situation dans l'est de l'Ukraine. Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Muntou et les sports. Pour l'instant, le journal. Le ministre malien de la Défense, Soumaïlou Boubey Maïga, a démissionné hier soir, une semaine après la défaite de l'armée malienne à Kidal face à des groupes armés rebelles, a annoncé la présidence du Mali. Le ministre malien de la Défense a présenté sa démission qui a été acceptée, a indiqué à l'AFP, en porte-parole de la présidence.
Soumaïlou Boubey Maïga a été remplacé à la tête de la Défense par Banda, un militaire, nous dit notre correspondant sur place, Kassim Traoré. Il ajoute que, selon ses informations, M. Maïga avait, avant sa démission, discuté avec le président Ibeka de la situation à Kidal, surtout de la question de savoir qui avait donné l'ordre d'attaquer.
Au Nigeria, au moins 45 membres des forces de sécurité ont été tués après une attaque de la localité de Bouni-Yadi par des hommes armés.
C'est hier soir que cette ville de l'état de Yobe, dans le nord-est, a été investie par des centaines d'éléments présumés de la milice islamiste Boko Haram. Une source contactée par la Voix de l'Amérique a confirmé la mort de 24 soldats et de 21 policiers. Cette source, qui a requis l'anonymat, a ajouté que les assaillants sont repartis avec un blindé et plusieurs autres véhicules. On ne sait pas pour le moment si l'attaque a fait des victimes civiles.
Par ailleurs, le département d'État américain dit n'avoir aucune information indépendante sur les affirmations du gouvernement nigérian, selon lesquelles il savait où étaient les lycéennes enlevées par les extrémistes de Boko Haram.
La porte-parole Jen Psaki a déclaré hier que même si les États-Unis savaient où elles étaient, ils n'en discuteraient pas publiquement. Elle a ajouté que, tout comme les Nigérians, les États-Unis ne tenteraient probablement pas une mission de sauvetage en raison des risques à la vie des jeunes filles.
Le département d'État américain demande à tous les ressortissants américains en Libye de quitter immédiatement le pays en raison d'une situation sécuritaire qualifiée d'imprévisible et d'instable.
Dans son avertissement publié hier soir, le département d'État a souligné le caractère inadéquat de l'appareil sécuritaire mis en place jusqu'ici par le gouvernement en Libye, ainsi que la circulation de trop d'armes aux mains des civils, dont des armes antiaériennes qui pourraient être utilisées contre l'aviation civile. En outre, les étrangers sont généralement présumés liés au gouvernement américain en Libye et pourraient être ciblés par des preneurs d'otages ou des meurtriers.
Des groupes armés ont investi le Parlement libyen la semaine dernière et les militants islamistes ont mis en garde les États-Unis contre toute ingérence.
Pour sa part, le groupe islamiste somalien Al-Shabaab a revendiqué hier soir l'attentat perpétré par deux kamikazes samedi soir contre un restaurant de Djibouti, un attentat qui a fait 3 morts, y compris les kamikazes. Les précisions de Morgane Guiriec.
Outre les deux kamikazes, l'attaque a tué un Turc et fait une vingtaine de blessés samedi dernier dans un restaurant fréquenté par des étrangers. Mais les islamistes affirment que 2 soldats français ont été tués. C'est le premier attentat revendiqué par le groupe islamiste somalien à Djibouti, un pays qui a déployé en décembre 2011 un millier de soldats au sein de la force de l'Union africaine en Somalie. Dans un communiqué, le groupe Al-Shabaab avertit que le pire est à venir et somme le président djiboutien de retirer ses troupes de la Somalie. Les islamistes somaliens affirment avoir visé les Français pour, et je cite, leur complicité dans les massacres de musulmans en Centrafrique. Ils ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de pacte avec le diable, le fait que l'ancienne colonie française abrite une base militaire américaine, la seule sur le sol africain. Le président djiboutien était venu récemment à Washington pour renouveler l'accord qui permet au Pentagone de mener des opérations contre les islamistes armés au Yémen, en Somalie et dans le reste de l'Afrique à partir de son pays. La France maintient aussi un contingent à Djibouti, dont le port sert de base aux opérations contre les pirates somaliens dans l'océan Indien.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé à l'unanimité de changer le mandat de la mission de maintien de la paix au Soudan du Sud. C'est pour mettre l'accent sur la protection des civils plutôt que sur la construction de la nation.
Le conflit entre partisans de Riek Machar, l'ex-vice-président d'ethnie Nuer, et Salva Kiir, le président d'ethnie Dinka, a fait depuis décembre des milliers de morts et plus d'1 300 000 personnes déplacées. Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise les casques bleus à utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les civils, enquêter sur les violations des droits de l'homme, aider à la distribution de l'aide humanitaire et appuyer un accord de cessation des hostilités.
Plus au nord, au Soudan, une jeune chrétienne condamnée à mort a donné la vie en prison. Elle attend toujours l'exécution de la sentence après avoir refusé de renoncer à sa foi. Issa Napon.
Selon son avocat, Mariam Yahya Ibrahim, déjà mère d'un garçonnet de 20 mois, a donné naissance à une fille dans l'hôpital de sa prison. Un tribunal soudanais avait condamné la jeune femme en début mai pour apostasie et lui avait donné 4 mois pour renoncer à sa foi chrétienne. Après son refus, la cour lui a infligé la peine de mort par pendaison et 100 coups de fouet pour adultère. Née d'une mère chrétienne et d'un père musulman, Mariam Yahya Ibrahim a été élevée dans la foi chrétienne. La loi islamique en vigueur dans le pays stipule que des enfants nés d'un père musulman doivent embrasser automatiquement la religion musulmane. Mariam Ibrahim est mariée à un chrétien et la charia soudanaise considère comme de l'adultère tout mariage entre musulmans et non-musulmans. Son cas a suscité un tollé dans le monde. Amnesty International a condamné une atteinte flagrante aux droits de la personne pendant que le département d'État américain conseille vivement le gouvernement de Khartoum de respecter le droit à la liberté de religion.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama veut garder 9 800 militaires américains en Afghanistan après la conclusion de leur mission de combat à la fin de l'année. Il est temps, a-t-il dit dans une intervention télévisée hier, de tourner la page sur la dernière décennie marquée en grande partie en politique étrangère par les guerres en Afghanistan et en Irak.
Les Afghans, a dit le président, assumeront une plus grande responsabilité pour leur propre sécurité. Les Américains qui resteront sur place seront des conseillers militaires pendant les 2 années suivantes. Un nouvel accord sécuritaire bilatéral doit être signé après l'investiture du successeur du président afghan, Hamid Karzai.
Le secrétaire général de l'ONU se dit alarmé par la violence continue en Ukraine. Ban Ki-moon a exhorté le gouvernement de Kiev à user de moyens exclusivement pacifiques pour reprendre le contrôle de la région Est.
Un porte-parole onusien a lié l'appel de M. Ban aux raids aériens et affrontements armés hier à l'aéroport international de Donetsk entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes. Ces combats ont fait 50 morts, des séparatistes pour la plupart.
Le président Barack Obama a félicité hier Petro Poroshenko pour sa victoire dimanche à l'élection présidentielle ukrainienne. La Maison-Blanche lui a offert le soutien total des États-Unis au moment où il cherche à unifier et à faire avancer son pays. Félix Yepasi Zembrou.
Le chef de l'exécutif américain a souligné l'importance de mettre en œuvre rapidement les réformes nécessaires pour réunifier le pays et développer une économie durable qui réponde aux aspirations de tous les Ukrainiens. Le président Poroshenko a déclaré lundi que son pays peut avoir la paix à travers le dialogue, mais selon lui, les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, qu'il a qualifiés de terroristes, doivent être défaits militairement. Moscou, en revanche, a appelé à l'arrêt immédiat de l'opération militaire de l'Ukraine contre les séparatistes. Le président russe Vladimir Poutine a dit qu'il souhaite un dialogue pacifique entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes. Les combats ont continué hier à Donetsk pour le contrôle de la l'aéroport de la ville. 40 personnes ont été tuées selon le maire de la ville. Pour sa part, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, dit avoir perdu tout contact avec 4 de ses observateurs civils arrêtés à un barrage près de Donetsk.
Enfin, rencontre historique hier à New Delhi entre les leaders de l'Inde et du Pakistan. Les dirigeants des deux nations rivales de longue date ont souri et se sont serrés la main devant les caméras avant le début de leurs entretiens. Bagasi Koura.
Le premier ministre indien Narendra Modi a exhorté son homologue pakistanais Nawaz Sharif à sévir contre les extrémistes au cours de leurs entretiens. Le ministre des Affaires étrangères indien Sujata Singh a déclaré que M. Modi a souligné les préoccupations de l'Inde concernant le terrorisme. Il a indiqué que le Pakistan a été invité à respecter son engagement à empêcher que son territoire et le territoire qu'il contrôle soient utilisés pour le terrorisme contre l'Inde. Dans ses remarques aux journalistes après les entretiens, le premier ministre Sharif a déclaré que les deux dirigeants ont convenu que leur réunion à New Delhi devrait être une occasion historique pour leurs deux pays. Le dirigeant pakistanais a également indiqué avoir dit au premier ministre indien, je cite, « Nous devons nous efforcer de transformer la confrontation en coopération », fin de citation. S'engager dans des accusations et contre-accusations serait contre-productif, a-t-il souligné. M. Modi a invité M. Sharif à son investiture lundi prochain. Ce serait alors la première fois qu'un dirigeant pakistanais assiste à une telle cérémonie en Inde.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Washington, la voix de l'Amérique. Au Burkina Faso, toutes sortes d'hypothèses après la mort du juge constitutionnel Salif Nebié, dont le corps a été retrouvé samedi dernier à quelques encablures de la capitale burkinabé. Cette mort serait due, nous dit notre correspondant sur place, Zoumana Wonogo, au coup reçu sur l'arrière de la tête avec un objet contondant. Son reportage sur cette mort.
En disant au revoir à son ami le juge Salif Nebié le samedi dernier, notre confrère Germain Nama n'imaginait pas un seul instant qu'il venait de partager avec lui ses derniers moments de vie, suivant le récit de Germain Nama.
Il faut d'abord dire que le corps a été retrouvé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, à une centaine de mètres de son véhicule. Le véhicule était intact, il avait le crâne fracassé et puis des égratignures sur le corps. Et donc moi je dis que c'est très suspect parce que quand il me quittait, il était entendu qu'il irait à la maison. Seulement, c'est qu'il y a eu entre-temps des coups de fil qu'on lui a passés. Il est probable qu'il ait effectivement bifurqué et à mon avis, c'est sûrement là qu'on a dû le tendre un traquenard et justement ce qui est arrivé est arrivé. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus probable enfin, que moi je retiens par rapport à ce qui lui est arrivé.
Peut-on faire un lien entre cette mort brutale du juge Salif Nebié et la situation politique actuelle du Faso? C'est la question que nous avons posée à Bouraïma Badini, ancien ministre de la Justice et promotionnaire de FAC de feu, le juge Salif Nebié.
À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait un grand dossier au niveau du Conseil constitutionnel qui puisse amener effectivement à voir de ce côté-ci, puisque le Conseil est saisi chaque fois donc pendant les élections et ainsi de suite. Mais actuellement, je ne pense pas qu'il y ait un dossier au niveau de notre pays là qui puisse amener effectivement à se pencher vers ce côté-ci. C'est vrai que notre pays est animé actuellement par des débats sur la situation politique nationale, l'article 37, ainsi de suite. Mais si le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi, on ne peut anticiper sur rien à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un drame qui est survenu. Il faut que nous essayons tous d'avoir raison gardée pour essayer d'aider la justice à démêler cet imbroglio-là, parce que la criminalité monte aussi. Ça peut venir de tous les côtés. Comme l'a dit le procureur général, toutes les voies sont ouvertes. Donc laissons la police judiciaire faire son travail.
Toutes les voies sont ouvertes, a dit le procureur général Wenceslas Ilvudo, qui était par ailleurs le juge chargé du dossier Norbert Zongo. Mais visiblement, la voie de l'autopsie, elle, semble fermée par défaut de kit au Burkina. Soumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
La voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En Guinée, le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a signé un accord avec le gouvernement guinéen pour l'exploitation du site de minerai de fer de Simandou dans le sud-est de la Guinée. En 2008, le régime de l'Ansana Conté avait obligé Rio Tinto à rendre 2 concessions sur 4 attribuées au conglomérat du franco-israélien Benistan Metz. Le ministre guinéen des Mines et de la Géologie, Kerfala Yansané, a dit à la Voix de l'Amérique que l'accord répondait aux nouvelles exigences en matière de transparence et qu'il déboucherait sur la création d'emplois. Sur la question des gisements de pétrole dans le golfe de Guinée, Nathalie Barge a demandé au ministre s'il y avait déjà des opérations de forage à ce sujet.
Nous avons décidé de revoir le code pétrolier. Je pense que très très rapidement, on va pouvoir avoir un code actualisé, un nouveau code. Entre-temps, il y a des groupes qui travaillent pour pouvoir faire du forage, au moins pouvoir donner des indications sur les zones où on pourrait facilement trouver le pétrole. Nous attendons les résultats de leurs activités.
On se retrouverait dans une Guinée qui a déjà énormément de bauxite, du fer, hein, c'est un gros projet, du pétrole. Jusqu'ici, on sait que cela n'a pas vraiment servi la population. Selon vous, en tout cas, est-ce que le gouvernement va s'engager à ce que tout cela serve à la population ?
Je pense que la démocratie est faite pour cela. Et nous avons un Parlement et les débats se font dans ce Parlement de manière transparente. Et cette obligation de rendre compte fait que la société civile, les populations sont informées et sont de plus en plus exigeantes. Et dans ces conditions-là, je n'ai aucun doute que les ressources minières du pays seront utilisées dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est pour ça que nous parlons de plus en plus de croissance inclusive. Donc il ne s'agit pas seulement d'alimenter les compagnies minières, il ne s'agit pas seulement de remplir les caisses de l'État, il faut faire en sorte que ces ressources puissent être orientées dans l'intérêt des populations et dans les secteurs qui sont susceptibles de contribuer à la lutte contre la pauvreté, comme l'éducation, la santé, les infrastructures, l'énergie, l'eau.
Est-ce que l'on s'achemine en Guinée vers la transformation de la bauxite ?
Il y a des projets d'usines d'alumine. Nous venons de signer des conventions avec des partenaires chinois qui sont désireux non seulement de produire de la bauxite, mais également de transformer sur place de l'aluminium. Nous venons également de signer des conventions avec des partenaires du Moyen-Orient, en l'occurrence d'Abu Dhabi. Et plus tard, lorsque nous aurons une fourniture d'énergie suffisante, il est possible d'envisager la transformation de la bauxite en alumine et également en aluminium sur place en Guinée.
Le ministre guinéen des Mines et de la Géologie, Kerfala Yansané, était joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
En République démocratique du Congo, depuis quelques semaines, la résurgence des tracasseries douanières est décrié au niveau de la petite barrière de Goma entre la RDC et le Rwanda. Cette douane est située dans le quartier populaire de Birere, où on se livre quotidiennement au commerce transfrontalier. Les petits marchands impliqués dans ce commerce ne cessent de se plaindre. Reportage de notre correspondant Primo Pascal Rodahigua.
Cette ambiance reflète la vie au quotidien des marchands qui font la navette entre les villes de Goma en RDC et de Gisenyi au Rwanda. Ce trafic est effectué généralement par les femmes des deux villes voisines qui dénoncent les tracasseries dont elles sont victimes.
Si une fois vous gardez patience et vous restez ici pendant 2 minutes, vous allez comprendre la situation que nous traversons. Dans tous les bureaux, nous payons. Ici, je ne reste qu'avec 100 francs congolais.
Il arrive deux fois que les marchandises de ces femmes soient saisies et d'un coup, elles perdent même le capital.
Avec cette somme, l'on ne peut pas espérer réaliser une ration. Et si tu ne payes pas, tes marchandises sont saisies et nous sommes perdants de tout ça.
Le gouverneur du Nord Kivu avait déjà assaini ces secteurs, mais les récalcitrants terrorisent toujours les petits marchands. Julien Paluku leur a donné un dernier avertissement et le maire de Goma, Ndole Kubuya, insiste sur les avantages de ce commerce transfrontalier
qui unit les habitants de Goma et de Gisenyi.
Les commerces transfrontaliers au niveau de nos deux villes et au travers les deux villes, nos deux pays, est un facteur important et du développement de nos pays et de la cohésion pacifique parce que c'est quand les gens se rencontrent qu'ils échangent sur leurs réalités et ils se réconcilient mutuellement.
Goma, Primo Pascal Rudahigua, La Voix de l'Amérique.
Élection présidentielle en Égypte. Cette élection se poursuit ce mercredi après la décision surprise du gouvernement de prolonger le scrutin d'un jour dans l'espoir de booster la participation. Le vote va donc se dérouler sur 3 jours au lieu de 2. Toujours pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes, le gouvernement a même décrété la journée de mardi, jour férié, et prolongé les heures de vote. Pour nous faire vivre l'ambiance dans le pays, avec l'aide du correspondant de La Voix de l'Amérique sur place, Jacques Aristide.
Applaudissements et cris de joie près d'un bureau de vote réservé aux femmes. C'est dans le quartier ouvrier d'Imbaba au Caire, la capitale. Un groupe de femmes portant le voile s'apprête à accomplir leur devoir électoral. On grignote de petits snacks, on mange du falafel et on écoute de la musique. Les Égyptiens profitent du jour férié. Même scénario dans la ville portuaire d'Alexandrie, sauf qu'ici, les électeurs ne se bousculent pas au portillon. Les reporters télé se demandent si c'est la chaleur accablante du soleil de midi qui a dissuadé les gens de venir voter. Canicule ou pas, ce n'est pas ça qui va empêcher Abdallah Abdel Latif de se rendre aux urnes dans sa ville de Marsamatrou. Lui et ses amis ne voulaient surtout pas rater ce rendez-vous électoral. C'est cela, d'après lui, qui va permettre de matérialiser la nouvelle feuille de route pour un retour à la démocratie en Égypte. Feuille de route que l'ancien ministre de la Défense et candidat à la présidentielle Abdel Fattah el-Sissi a mise en avant juillet dernier, après avoir chassé du pouvoir le président islamiste Mohamed Morsi. Un peu plus loin, à Louxor, les images de la télévision égyptienne ne sont toutefois pas très encourageantes. La scène près d'un bureau de vote est pratiquement déserte. Et pour cause, les frères musulmans, encore influents dans la ville, ont appelé leurs partisans au boycott. Retour au Caire, le juge Wahel Omran, chef du bureau électoral de Manoufia, est lui optimiste. L'élection, d'après lui, se déroule sans anicroche. Quant au patron de la commission électorale égyptienne, Tarek Chibil, il a tenu à déclarer que très peu de plaintes d'irrégularités ont été signalées au cours des 2 jours de vote.
Et maintenant les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Bonjour Idrissa.
À 2 semaines du coup d'envoi du mondial, les blessures au sein des Lions indomptables inquiètent.
Lors d'un match amical lundi contre la Macédoine, Webo s'était blessé et a rejoint à l'infirmerie les cadres indisponibles tels que Samuel Eto'o, Chedou, Jean Demakoun et Kanabik. Le cas le plus préoccupant selon Foot Africa 365 est celui de Samuel Eto'o qui souffre de douleurs au genou selon l'attaché de presse de la sélection camerounaise. L'attaquant devait se rendre en urgence hier chez un spécialiste pour être pris en charge.
La technologie sera fortement présente au prochain mondial.
Oui, les 12 stades au mondial 2014 au Brésil seront équipés de la technologie vidéo Goal Control 4D. Cette technologie doit permettre de savoir en temps réel si un ballon a franchi ou pas la ligne de but. Le système conçu par la firme allemande Goal Control fonctionne avec 14 caméras à grande vitesse, 7 pour chacun des 2 buts. Selon la FIFA, la position du ballon est continuellement et automatiquement enregistrée en 3 dimensions. Dès qu'il arrive à proximité de la ligne de but, l'arbitre garde cependant le dernier mot pour valider ou non le but, a précisé la FIFA. Autant dire qu'on n'est pas sorti des polémiques. Et puis, pour terminer, la NBA suite des finales régionales.
Les Thunders d'Oklahoma City ont égalisé avec les Spurs de San Antonio, 2 victoires partout, en battant ces derniers 105-92. Russell Westbrook a marqué 40 points pour Oklahoma City. À présent, Roger Muntu et sa musique. Bonjour Roger.
Salut Idrissa, Pharrell Williams, commissaire d'expo, c'est l'idée folle qu'il a eue avec le galériste français d'art contemporain Emmanuel Perrotin. L'exposition Girl qui a ouvert ses portes il y a cela deux jours à la galerie Perrotin à Paris. Une foule de journalistes était présente pour visiter l'exposition et écouter Pharrell présent pour l'occasion. Il doit être très content ou happy, comme le dit la chanson.
L'exposition Girl de Pharrell Williams a 49 œuvres qui s'articulent autour de la place de la femme, du corps de la femme. Il y a peinture, sculpture, vidéo et photographie.
Oui, Idrissa, il y en a pour tous les goûts, ça c'est sûr et certain. Mais la question sur les réseaux sociaux, Pharrell, féministe, pas vraiment d'après ce qu'il dit sur Twitter. Je ne sais pas si je peux prétendre être féministe, tout simplement parce que je suis un homme. Par contre, je peux dire que j'aime les femmes de A à Z, a-t-il déclaré.
C'était Pharrell Williams dans Happy. Merci Roger.
De rien Idrissa, un clin d'œil à notre fidèle auditeur Eglon Makassi à Goma.
Retrouvez Roger Muntu dans le RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Anne Albertson nous rejoint en studio pour le rappel des titres.
Au Mali, démission du ministre de la Défense Soumaïlou Boubey Maïga, conséquence de la situation à Kidal, il est remplacé par Banda, un militaire. Dans le nord-est du Nigeria, 45 soldats et 21 policiers tués dans une nouvelle attaque de Boko Haram. Washington demande à tous les ressortissants américains de quitter immédiatement la Libye. Le Conseil de sécurité de l'ONU change le mandat de ses casques bleus au Soudan du Sud. Le président Barack Obama souhaite que 9800 militaires américains restent en Afghanistan après la fin de leur mission de combat. Enfin, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se dit alarmé par la situation dans l'est de l'Ukraine.
Merci Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.